6h40 sur France Culture. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Ce matin, Jacques, vous nous parlez de la tyrannie du bonheur.
Eh oui, puisque Eva Illouz publie avec Edgar Cabanas Apicratie, ou comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. C'est la première critique sociologique d'envergure de ce qu'on regroupe sous l'expression développement personnel. Le livre, prévient-elle, n'est pas contre le bonheur, mais contre sa vision réductionniste, fort utile à l'individu. Individualisme prêché par la psychologie positive. La sociologue spécialiste de la marchandisation des émotions en parle dans les pages débat de l'Obs. Dans cette pensée, je cite, « Le malheur et la pauvreté deviennent une question d'échec psychique et le bonheur ou la réussite une disposition intérieure du moi. » Eva Illouz souligne l'affinité profonde entre le néolibéralisme et la psychologie positive, ce courant né aux États-Unis qui met l'accent sur l'individu et exploite la notion de responsabilité en oblitérant les facteurs sociaux et en faisant peser sur l'individu l'entière responsabilité de sa situation. Pas étonnant que, dès ses débuts, à la fin des années 90, la psychologie positive ait drainé des fonds importants pour s'institutionnaliser, notamment au sein de l'université. De grandes multinationales comme Coca-Cola, par exemple, y ont vu l'occasion de développer des méthodes pour augmenter la productivité et l'implication des salariés dans la culture d'entreprise. Et l'armée américaine a investi 145 millions de dollars pour un programme destiné à entraîner les militaires à combattre le stress post-traumatique et améliorer le moral des troupes. Mais, relève la sociologue, rendre une psyché résiliente si ça marche trop bien, c'est le genre de ressource qui vous rend imperméable à votre propre souffrance et à celle que vous infligez aux autres. Outre qu'elle constitue un instrument de domination sophistiqué, puisque intériorisée, la psychologie positive et l'idéologie du développement personnel évacuent la dimension tragique propre à toute vie humaine. Or, la souffrance est souvent à l'origine d'une prise de conscience collective, comme dans le mouvement ouvrier ou les luttes des femmes, et toutes les formes d'émancipation. Eva Illouz rappelle que l'écrivaine féministe Betty Friedan avait dénoncé dans La femme mystifiée les psychologues qui accusaient de névrose les femmes souffrant de leurs conditions. On peut opposer à l'idéologie individualiste du développement personnel et à l'industrie du bonheur la philosophie et l'éthique du care, un concept souvent traduit par sollicitude. Cet autre courant de pensée nous vient également des États-Unis, mais il table au contraire sur la solidarité et le souci de l'autre. Il s'est développé dans le sillage du féminisme, après la phase de conquête des droits et de l'égalité, pour renverser la perspective qui continuait d'assigner les femmes aux tâches domestiques en politisant la sphère privée et en montrant que la question du genre imprègne la morale de manière à développer une éthique de la bienveillance et à valoriser notamment les métiers du soin et de l'assistance. Comme le rappelle Pascal Molinier, l'une de celles avec Sandra Laugier qui a introduit en France la notion de « care », le vieillissement d'une partie de la population et l'accroissement du nombre de vies marquées par de sérieux handicaps, la carence ou l'insuffisance des formes de prise en charge au sein des familles du fait de la présence accrue des femmes sur le marché du travail, la valeur sociale et le coût personnel de l'abnégation envers les proches augmentent. Dans son dernier livre, Le Care Monde, Pascal Molinier souligne qu'un pays comme l'Uruguay a inscrit dans sa constitution le care parmi les besoins primordiaux des citoyens au même titre que la santé ou l'éducation. Une relation d'attention à autrui s'affirme entre souci de soi et souci des autres face au modèle politique diamétralement opposé des premiers de cordée qui dévissent les souffrances des jeunes, des pauvres, des migrants. Une nouvelle vision du monde s'en dégage qui englobe écologie et conditions animales, car la notion de vulnérabilité peut être étendue au non-humain, mettant en évidence l'interdépendance de l'homme et de son environnement. Et si l'on veut rester dans leur orbite de l'influence intellectuelle américaine, pourquoi ne pas revenir à Ralph Waldo Emerson, dont les éditions Rivage publient La confiance en soi, une compilation d'essais où figure son texte magistral sur la nature, ainsi que son pamphlet contre le conformisme qui donne son titre au recueil. À l'époque, le 19e siècle, c'était le combat d'avant-garde et cette philosophie de l'optimisme était à rebours de l'unanimisme raciste qui faisait office de religion civile. Grand lecteur d'Emerson, comme Obama ou Proust, Nietzsche saluait chez lui cette gaieté bienveillante et pleine d'esprit qui désarme le sérieux et il ajoutait « Il ne se rend pas compte à quel point il est déjà vieux, à quel point il sera encore jeune à l'avenir.